Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une nouvelle plateforme pour signaler des situations d'habitat indignes, deux reportages à la découverte de projets associatifs de faire ensemble et de faire avec pour lever des freins, l'un dans le champ du handicap et l'autre dans le champ de l'entrepreneuriat féminin. Il y aura de la musique dont une nouveauté et deux recommandations pour le week-end, la Galésie en fait et le marché pas pareil, 5e édition, bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. Le lancement d'une nouvelle plateforme de signalement de l'habitat indigne ici en Ille-et-Vilaine. Histologe, c'est son nom. Alors Histologe, H-I-S-T-O-L-O-G-E. Plateforme lancée au mois de février à destination des occupants et des propriétaires qui rencontrent donc une situation de logement indigne. Lorsqu'on parle d'habitat indigne, ça concerne les problèmes de moisissures, des installations électriques dangereuses, mais aussi des fissures ou encore la chute observer d'éléments du toit ou bien de pierre. Cette plateforme, c'est une réponse au sentiment de découragement qui peut être ressenti face à la complexité des démarches à entreprendre ou par méconnaissance des recours possibles. L'objectif est aussi de centraliser les demandes avec une trace des échanges. Désormais, en quelques clics, c'est en tout cas ce qu'on nous promet, il est possible de signaler ces problèmes. On peut aussi déposer des photos en ligne et en fonction de la situation, différentes structures sont mobilisées pour engager une procédure. Il y a l'ADIL, l'association Droit et Information Logement, l'Agence Régionale de Santé, la Caisse d'Allocation Familiale, mais aussi les municipalités et les bailleurs sociaux. Par contre, gros bémol, je lis qu'Histologe vient remplacer une fiche de signalement, celle du guichet unique logement indigne pour l'Ille-et-Vilaine, un guichet qui est piloté par plusieurs collectivités locales. Il s'agirait donc d'un pas de plus vers la dématérialisation des démarches administratives qui, on le sait, laissent à l'écart une partie du public. Il reste toutefois un numéro de téléphone que je vous donne, le numéro Info Logement Indigne, c'est le 0806 706 806. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un premier reportage. Et pour le premier reportage du jour, on prend la direction de la ferme de la Harpe, un des deux lieux d'activité de My Human Kit, une association pionnière qui, en 2014, a décidé de se servir des Fab Labs pour proposer des assistances aux personnes en situation de handicap. Cette semaine, je les ai rencontrés pendant un Mobilab, un atelier pour électrifier son fauteuil manuel à bas coût, un coût à peu près estimé à 150 euros. À côté de ce temps fort, vous pouvez retrouver l'association My Human Kit tous les jeudis après-midi à la Harpe et chez Ascoria, puisqu'ils sont installés entre deux lieux, vous allez le découvrir. Le credo de l'association, simple mais un petit peu révolutionnaire, c'est de mettre la technique au service de l'humain.
Arthur,
prenons celui de Yann.
Ok.
Voilà.
Enchanté.
On va bosser avec toi. Je vais reporter photos, notes, tout ça. Comme ça, tu seras jamais tout seul. Moi, je ferai la partie technique quand t'as besoin, tu vois, genre de souder, de meuler, tout ça. Je t'aide à le faire.
Super.
Ça te va ?
Très bien. Oui.
Ouais, ça le fait ?
Oui.
Bon, cool. Merci.
Bonjour, je m'appelle Johan Véron, je suis Fab Manager pour l'association My Human Kit. Donc un Fab Manager, c'est un responsable d'atelier, déjà, tout simplement, pour éviter les mots trop compliqués.
Les anglicismes.
Ouais, c'est ça. Fab Lab, en fait, c'est Fabrication Laboratory, donc laboratoire de fabrication. L'association My Human Kit utilise le concept de Fab Lab pour réaliser des aides techniques au handicap. Des aides techniques sur mesure, qui facilite le quotidien d'une personne en situation de handicap.
On pense prothèse, c'est peut-être plus large que ça ?
Alors c'est beaucoup plus large. Alors prothèse déjà c'est un terme médical, donc nous on ne fait pas de prothèse parce que une prothèse est remboursée par la Sécu, tu dois avoir des validations, des assurances et tout ça. Et nous on est plutôt dans l'aide technique maligne. C'est quoi ton besoin ? Bah tac, on va te trouver un petit système qui n'existe pas. On regarde l'existant et après on réalise avec le porteur de projet en fait. Donc là, la personne essaie, elle dit, bah voilà, bah moi j'ai du mal à attraper ma fourchette. Donc ok, bah vas-y, fais voir le geste, comment tu fais. Ah ouais, donc si on faisait un truc qui faisait. Et puis pour certains trucs plus compliqués, on réalise des moments des hackathons créatifs. C'est des marathons créatifs où les gens se rassemblent pour réaliser de manière conjointe des solutions plus longues, plus techniques. Là, par exemple, cette semaine, c'est l'atelier Mobilab. Donc l'atelier Mobilab, c'est pour réaliser des aides techniques à la mobilité. Donc là, les gens viennent spécifiquement pour trouver une solution pour motoriser leur fauteuil roulant. À bas coût, évidemment, et sur mesure, en fait. Et bah là, en fait, il faut savoir souder à l'arc, il faut savoir souder à l'étain pour l'électronique, il faut savoir faire un petit peu de 3D pour améliorer et customiser un peu son système, il faut savoir découper la laser, et bah voilà, utiliser tous les outils du Fab Lab. Donc en fait, pendant la semaine, on réunit les gens et on se met en petite équipe et à tous ensemble, bah voilà, on dit bah tiens, bah moi je travaille avec telle personne ou telle personne, et puis bah voilà, on fait progresser son aide technique.
Et donc on peut partir d'un fauteuil manuel pour l'électrifier sur le même fauteuil.
C'est exactement ça, ouais, ouais. Bah, en fait, il y a des dispositifs médicaux qui existent pour faire ça, qui sont relativement chers, en fait. Et pour certaines personnes, en fait, le coût est prohibitif, donc ils l'achètent pas, quoi.
Donc moi, c'est Eden, j'ai 27 ans, je suis adhérent donc, à MHK. Puis là, en fait, je suis là dans le cadre de la motorisation de mon fauteuil roulant, en fait.
Adhérent depuis quand, vous l'avez connu comment cette association?
Ça fait pas si longtemps, ça fait 3-4 mois que je passe. Je connais ça depuis plus longtemps en fait, mais moi j'habite à Verne et pour me déplacer c'est compliqué. Donc il faut se motiver quoi.
Il y avait un besoin particulier qui vous avait amené ici les premières fois?
J'avais des problèmes de réglage au niveau de mon fauteuil et puis du coup on m'a aidé un petit peu à voir ce que je pouvais faire ou pas. Moi j'ai acheté mon fauteuil donc normalement il y a un forfait sécu qui s'applique, sauf qu'il s'applique au bout de 2 ans. Et du coup il fallait que je paye pour pouvoir faire régler et je sais que je pouvais contourner ça autrement. Enfin.
Et c'était des problèmes de réglage qui avaient quelles conséquences enfin,
Mon centre de gravité était trop en arrière, ce qui fait qu'à la moindre bosse, je me retournais.
Aujourd'hui vous venez avec un objectif précis?
Oui, donc aujourd'hui on est là pour une motorisation de fauteuil roulant. Parce que en fait c'est un problème... assez fréquent chez les gens qui ont des fauteuils, mais moi j'ai des tendinites aux deux épaules, c'est douloureux. Et du coup j'avais besoin d'un peu d'aide pour me déplacer en fait. Après moi j'ai une autre maladie qui fragilise mes articulations en plus, donc ça n'a pas aidé en fait.
Pourquoi venir bricoler et pas acheter un beau fauteuil tout neuf électrique?
Parce que c'est trop cher. Moi je suis à la hache. Et
à
l'allocation adulte handicapé, ouais. Donc actuellement c'est 972 € par mois. Et un fauteuil neuf, le mien par exemple, il y en a eu pour 3 000 € sans motorisation et c'est un moyen de gamme. J'ai pas les moyens d'acheter une motorisation, il y en aurait pour plus cher que mon fauteuil roulant. C'est-à-dire que le prix de mon fauteuil plus une motorisation, c'est le prix d'une bagnole.
Y a pas d'aide ?
Si, mais c'est en ce moment, la MDPH a énormément de retard. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué à remplir. C'est 2 à 3 ans d'attente pour avoir une réponse. J'ai pas 2 à 3 ans d'attente devant moi en fait.
Vous venez ici avec des compétences ou
Non, pas du tout, j'en ai aucune. Non, j'ai pas de compétences malheureusement. J'apprends et puis les trucs que je sais pas moi-même, la meuleuse par exemple, j'y touche pas. Mais si c'est pour percer des trous, mettre des vis et faire des mesures, ça je peux le faire moi.
Dans l'idée, à la fin de la semaine, vous repartez avec un fauteuil électrifié?
En fait ça va être un espèce de trottis à l'avant. Mais c'est quelque chose que je vais pouvoir enlever et remettre à volonté en fait.
Ça va changer quand même un peu votre quotidien?
Ouais, vachement. Ça va me permettre de me déplacer un peu plus facilement et avec un peu moins de douleur en fait.
Ça peut peut-être aussi vous permettre de faire des plus grandes distances, non? D'aller...
Oui, bah typiquement, moi j'habite à Verne-sur-Sèche. Après 21h, il n'y a plus de bus. Et ça va me permettre de pouvoir faire Rennes-Verne tout seul en fait. Donc je m'arrête à Poitry et il y a une piste cyclable qui relie les deux.
Alors, lui il est encore en cours. Mais du coup, le principe c'est vraiment. Hop, donc c'est amovible.
Ça se met donc devant le fauteuil,
devant le
à l'avant du fauteuil.
On serre les pinces. Et du coup, la semaine dernière, c'était justement déterminer quelle courbure on donne ici, quelle largeur, quelle profondeur. Il faut que la personne soit suffisamment confortable au niveau de ses jambes, de son assise. Ensuite, déterminer la hauteur du guidon. Et du coup, il y a la batterie qui vient devant. Et du coup, là, à l'intérieur de la roue, il y a le moteur. Il y a un frein et puis un accélérateur de vélo.
C'est comme un guidon, c'est accessible au niveau des bras.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça va jusqu'à 15 km/h à peu près.
Donc je suis Clémence De Sauve, étudiante en design au Beaux-Arts de Rennes, en Master 1. Et donc ouais, je fais un stage à My Human Kit de 3 semaines. Et donc là, c'est la deuxième. Si je me suis dirigée vers My Human Kit comme association, c'est parce que je suis vraiment intéressée par les applications sociales du design, et notamment dans le milieu du handicap et de la santé. C'est pour ça que ça me parlait comme manière de travailler, le fait de vraiment mettre les porteurs de projets au centre, parce que c'est vraiment les usagers qui sont les mieux placés pour dire ce dont ils ont besoin. Toute la semaine dernière, c'était la préparation, où on a vu un par un les porteurs de projet pour prendre les mesures par rapport à leur fauteuil roulant, déterminer la taille du trottis. Comme ça, tout ça, c'est prêt, et on peut démarrer les 5 jours intenses en ayant déjà ça de fait.
On est le premier jour, non, c'est ça?
Là, c'est le deuxième
jour. On est le deuxième jour.
Il a démarré hier. C'était plutôt présentation de l'asso, des différentes machines du LabFab, du coup, de l'association. On a aussi présenté le wiki. C'est une page de savoir commun où, du coup, chaque porteur de projet, pendant les 5 jours du Mobilab, va documenter les différentes étapes de fabrication de son trottis. Et c'est comme ça que se diffusent et se partagent les idées. Aujourd'hui, c'est la partie métal. Demain, le troisième jour, donc vendredi, ce sera la partie électronique. Et donc ensuite, lundi et mardi, ce sera les 2 derniers jours. Et là, ce sera plus la customisation. Et puis s'il y a besoin, s'il y a des porteurs de projets, la plupart sont à Rennes. De toute façon, ils sont adhérents à l'association. Donc en fait, ils peuvent avoir accès certains jours de la semaine à tous ces outils-là.
Et un suivi, ça s'arrête pas là, en fait,
si besoin. Voilà.
Alors l'histoire de l'association, c'est avec Nicolas Huchet, où en fait c'était un événement en 2011, je crois, qui s'appelait Vivacité à Rennes, et moi je venais de découvrir les Fab Labs. Donc moi mon loisir c'est de fabriquer des synthétiseurs analogiques, voilà, c'est ça qui m'amuse, bon. Et du coup je vois un lieu, ouais, il y a des fous furieux, trop bien et tout. Et donc je me pointe avec mes valises de synthé, et puis je découvre l'imprimante 3D, la laser et tout ça, je dis oh là là, un lieu génial. Puis un jour, il y a Nicolas Huchet qui se pointe en disant bah, « Bonjour, l'imprimante 3D, vous pensez qu'on pourrait faire une main robot avec ?»« Bah ouais, oui, évidemment, mais enfin, pourquoi faire en fait ?» Et là, il enlève sa prothèse. Et là, toutes les personnes présentes ont « Oh, bouche bée, oh, comment ça marche quoi ?» Et en fait, il est devenu l'expert de son handicap. Et c'est un peu ça l'étincelle qui a fait démarrer le projet, c'est que c'est la personne en situation de handicap, c'est elle qui sait. Et donc du coup, Nico, il se pointe en disant « Bah voilà, est-ce qu'on pourrait faire une main ?» Donc on fait une main un peu marionnette, c'est avec des ficelles, tu tires sur un doigt, ça la lève, tu tires sur l'autre ficelle, ça le rebaisse. Quoi. Et donc, bah voilà, on fait le premier prototype de main. Et donc là, bah, en fait, Nico, il se fait inviter par des Italiens à une maker fair. Donc là, ah bon, bah faut aller en Italie. Donc là, il commence à y aller, le proto supporte mal le trajet et tout ça. Et donc, ah ouais, merde, en revenant, bon bah attends, là, il nous invite à Moscou, comment on fait quoi? J'ai dit, écoute, moi je suis mécano, je vais te faire un truc soviétique, ça va tenir, quoi, tu vois, ça va être de l'alu plié, il n'y a pas de problème, tu vas y aller, ça va revenir. Quoi. Et donc du coup, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à y aller avec lui, en fait, on était 3, et effectivement, ça a tenu. Et voir l'état dans lequel ça le mettait de travailler sur son projet, où en fait, c'est un traumatisme de perdre une main. S'habituer à la prothèse, c'est encore des habitudes. Quand la prothèse tombe en panne, et ben en fait tu te retrouves avec le « Ah merde !» Et en fait lui c'était un problème pour lui. Il souhaitait que sa main soit plus facilement réparable, et puis être souverain de sa technologie quoi. Et puis après on s'est dit « Mais si on faisait une asso, est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser quoi ?» Et puis bah voilà, c'est ce qu'on a fait en 2014.
Il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'association?
On est 7 salariés, 8 je dirais avec Valentin qui est mon apprenti. On est plutôt au nord de Rennes, entre Villejean et Beauregard. Donc le Fab Lab historique, en fait, il est chez Ascoria, qui est une grande école de travail social. Donc là-dedans, en fait, au niveau moins 1, au rez-de-jardin, on a notre petit Fab Lab, où là, c'est le Fab Lab, j'irais, orienté propre, sans trop de bruit, voilà. Et ici, on est à la ferme de la Harpe, donc lieu magique, s'il en est, à Rennes, où en fait, ils nous ont mis à disposition un atelier vélo, en fait, qui n'était plus utilisé. Et là-dedans, bah, comme on peut l'entendre, voilà, il y a de la meuleuse, il y a de la soudure, des marteaux, voilà, et puis des gens qui bricolent.
Et du coup, est-ce qu'il faut que je creuse pour que les rondelles puissent passer dedans ?
Non, il faut que ta fourche, elle vienne enfourcher, du coup, tu vois, de part et d'autre,
ah ouais,
de cette pièce-là.
Ok.
Mais que cette petite pièce grise, elle serve à bloquer la rotation du moteur.
D'accord.
Donc en fait, il faut
qu'on arrive à la faire rentrer, tu vois.
Du coup, d'abord, on va l'écarter et après, on verra s'il faut relimer un peu pour que ça passe. Ça.
Qu'est-ce qui fait que le projet intéresse, notamment si vous êtes parti à l'étranger, présenter ce que vous faisiez ?
En fait, on a été dans les premiers, on ne peut pas dire les premiers, parce qu'il y en a sûrement d'autres dont on n'a pas entendu parler, à utiliser le Fab Lab pour faire des aides techniques handicap. Sinon, il y a toujours eu des papas ou des mamans à bricoler des systèmes pour leurs enfants. Il y a toujours eu des solutions malines, mais là, vraiment, c'est que du coup, on utilisait la technologie de l'époque. En 2012, tu vois, les imprimantes 3D, ça existait déjà, mais tout le monde ne connaissait pas. Et en fait, ça paraissait fun.
En presque 10 ans, vous allez fêter vos 10 ans l'année prochaine. D'un point de vue technologique, justement, comment on peut décrire ce qui s'est passé et ce que ça vous permet de faire aujourd'hui ?
Pour la main bionique, par exemple, la main de Nico, là, elle est maintenant en aluminium. Maintenant, elle commence à être solide. C'est un lycée technique d'Angers qui l'usine. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a des écoles. Il y a des universités, il y a des écoles d'ingé, il y a même des grosses boîtes. Il y a Ariane Group, par exemple, qui a été un de nos mécènes. C'est vraiment, en fait, plein de gens qui se sont dit, mais en fait, c'est super, c'est des projets open source, donc la recette est partagée. Et du coup, on peut utiliser ce projet-là pour faire un projet d'étudiant. Et donc, ça a du sens, ça va servir à quelqu'un, on partage les trucs, et puis, voilà, on avance très nombreux, voilà.
Et au-delà des matériaux, sur la mécanique, comment ça marche au niveau du mouvement ? C'est quoi le mécanisme sur l'exemple de la main ? Ça fonctionne comment ? Pour resserrer, par exemple.
Pour resserrer, en fait, il y a un moteur et des capteurs de muscles. En fait, c'est des capteurs qui mesurent l'activité électrique musculaire. Donc, quand tu contractes un muscle et s'il est posé dessus, c'est comme si tu appuyais sur un bouton. Ça fait le même effet, quoi. Si je lève mon poignet, le muscle qui est en haut, du coup, fait que ça ouvre la main. Et si je contracte en bas, ça ferme la main, quoi. Et puis après, c'est tout simplement un petit cerveau électronique qui reçoit l'information, qui écoute et qui dit « Ah, il demande à ouvrir, hop, je vais dire au moteur, vous ouvrez. » Ah, il demande à fermer, je vais dire au moteur, fermez. »
Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de situations qui amènent les gens à venir vous voir ?
Ah ouais, là du coup, je résiste pas à l'envie de parler de Jérôme. Jérôme, c'est quelqu'un qui vient de Lille, qui a 40 ans, il peut marcher, mais il a une très mauvaise préhension des mains, il n'a pas de motricité fine, quoi. Et en fait, lui, ça fait longtemps qu'il veut des toilettes japonaises portables. Donc le principe de toilette japonaise, c'est un petit jet d'eau qui sort et qui vient faire une partie du travail. Et en fait, Jérôme, à Lille, lui, il s'est installé des toilettes chez lui. Sauf que quand il va voir ses frères, quand il part à l'étranger, il a plus. Et comme il dit, à 40 ans, ça me gêne de demander à maman, quoi. Il a cherché des solutions, donc il a essayé, ils ont trouvé un bureau d'études, ils ont fait faire un prototype, ça leur a coûté 30 000 euros. Et le prototype est tombé en panne, et là, ils se retrouvaient un peu démunis en disant « Merde, faut qu'on recommence tout, quoi. » Et du coup, on a refait le projet complètement, que là, on a tout rendu open source, les plans, le code, l'électronique. Et du coup, on a été invité à Tokyo il y a un mois maintenant. On a emmené ce projet-là. Donc, on a emmené les toilettes japonaises portables au Japon, et ils nous disaient « Ah, mais c'est génial, nous, c'est que des systèmes fixes. Quand on part à l'étranger, par exemple, on n'a pas de dispositif. » C'est que ça, en fait, c'est que des échanges. Tu viens avec un projet, puis tu reçois autant que tu donnes. Et du coup, c'est ça l'enthousiasme de l'asso, quoi.
Vous êtes encore les seuls sur le territoire français ou il y a d'autres assos qui se sont montés du même genre ?
Alors, on essaie de d'essaimer le concept de Human Lab. Donc, c'est volonté d'accessibilité, volonté d'être en réseau, de partager les connaissances. Et puis, une fois par an, on fait un rendez-vous inter-Human Lab, quoi. Et là, du coup, en France, il y en a à Nantes, à Brest, à Laval, en Vendée, à Palavas-les-Flots, il y en a à Lyon, et puis après il y en a trois en Afrique, un en Inde, pratiquement on peut en dire qu'il y en a à Tokyo, ça s'exporte. Alors c'est pas une franchise, c'est-à-dire que nous on vend rien déjà, et on vend pas le concept. En fait c'est aux gens de se dire, nous on a une asso, et on a envie de faire ça, on aime la technique, on aime les humains, et go quoi.
Je te montre comment on fait pour écarter.
Ça va être...
en mode Hulk.
C'est la description audio du geste de bêtise
que je viens de faire de l'écarter à la main. De tenter.
Felet 23 par Sababa 5, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur Yann, qui est à retrouver sur un single Eila 22, Eli Felet 23. C'est sorti le 2 juin chez Batov Records. Et c'est un single qui arrive quelques mois après le premier album pour cette formation originaire de Tel Aviv, un groupe qui parvient à fusionner musique traditionnelle avec du funk, du boogie, de la dub et du rock psyché. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr, un site internet où vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les podcasts des émissions, qu'elles soient réalisées par des salariés ou des bénévoles. Allez, on poursuit l'émission d'information locale du jour avec un second reportage. Et on reste dans le champ associatif et dans le quartier Villejean, ça tombe bien, pour parler d'un projet pas si éloigné que ça de l'esprit de My Human Kit que vous avez entendu juste avant la pause musicale. Je parle de l'ESS Cargo et Compagnie, un tiers-lieu inauguré à l'automne sur le campus de l'université Rennes 2, où étudiants et habitants peuvent venir développer leurs projets et être accompagnés. Ce vendredi, c'est la dernière journée d'une semaine dédiée à l'entrepreneuriat féminin. 13 porteuses de projets ont participé à cet événement. Reportage.
Qui est partant pour ouvrir le bal ?
Allez, moi je me lance.
Ouais.
Allez,
j'ai râlé.
J'ai râlé.
J'ai râlé.
Est-ce que tu as des choses à accrocher ?
Ouais, j'ai des choses à accrocher.
ESS Cargo et Compagnie, c'est un lieu, mais c'est aussi une association qui vise à créer des ponts entre l'université et le quartier pour construire un monde plus juste et plus écologique. Ben moi, je m'appelle Marie Baudjean, je suis co-dirigeante de ESS Cargo et Compagnie.
Vous êtes installée là sur le, on est vraiment sur le campus de l'université Rennes 2 depuis l'automne 2022. Il s'est passé quoi depuis le lancement ?
Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on voit que maintenant, il y a une réelle appropriation des locaux. Et aujourd'hui, c'est énormément d'heures de mise à disposition de cet espace. Donc ça permet qu'il se passe énormément de choses dans ces locaux et la rencontre aussi entre des univers qui ne se croiseraient pas par ailleurs.
Qui sont les équipes qui font vivre ce projet ESS Cargo et Compagnie ?
Aujourd'hui, on est 8 salariés, donc c'est une belle équipe. On a une co-dirigeante à mes côtés qui est plutôt en charge des pôles qui concernent l'animation d'une communauté d'entraide à l'échelle du quartier et de l'université. Moi, à mon niveau, je suis plutôt sur les questions d'accompagnement de porteurs de projets, avec l'idée vraiment dans l'accompagnement de lutter contre les inégalités et de favoriser le pouvoir d'agir. Ensuite, on a une alternante qui vise à créer un pôle culinaire avec deux choses. Une première chose qui est plutôt d'avoir une cuisine donc qui est juste à côté, à visée pédagogique, pour animer des ateliers autour de alimentation, écologie, alimentation et précarité.
Sachant qu'il y a l'épicerie qui est juste à côté, voilà. L'épicerie gratuite.
C'est exactement ça. On travaille beaucoup avec l'épicerie gratuite au quotidien. Le fait d'être en proximité immédiate, c'est chouette, ça mène à des projets communs. Ensuite, on a un autre alternant qui travaille, lui, qui est ingénieur technopédagogique et qui travaille à construire un cycle de formation et qui accompagne également les porteurs de projets sur tous les enjeux liés au numérique. Une autre alternante qui est plutôt sur le projet Femmes et pouvoir d'agir et aussi dans l'animation et la gestion d'un groupe d'entraide qui est basé sur l'échange de temps, qui est un projet très innovant où se fédèrent des habitants et des étudiants qui s'échangent des services en comptabilisant le temps passé. Et donc ici, ce qu'on essaie de tester, c'est vraiment est-ce qu'un système de réciprocité peut aussi permettre d'éviter ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'épuisement bénévole et donc des initiatives qui s'essoufflent au fil de l'eau. On a actuellement une stagiaire, Perrine, qui est très investie dans ce pourquoi on est là aujourd'hui, et Mathilde, qui est en service civique avec nous, sans oublier Emma, qui est salariée avec nous depuis le démarrage de l'association et qui, elle, est sur des enjeux de communication et de documentation. Donc là, c'est vraiment comment donner à voir et partager les savoir-faire et les pratiques qu'on peut développer au sein de la structure.
On le redit, on est dans le bâtiment RF, plutôt au bout du bâtiment. Vous disposez de quel espace ?
Du coup, on a à côté la salicorne. Donc là, c'est plutôt la cuisine à visée pédagogique, expérimentale. Ici, on est dans la salade. Donc c'est un espace qui est vraiment réservable sur des horaires définis. À côté, on a la salute, qui est un espace plutôt de travail partagé. Et juste en face, on a la salsa, qui est plutôt un espace à viser de convivialité, pour se poser, chiller. Alors en fait, nous, le gros défi, ça a été vraiment de se faire reconnaître au sein de l'université. Parce que dans le processus de montage du projet ESS Cargo et compagnie, au début, on n'avait pas de locaux. Et en fait, ça a été une chance, je pense, parce qu'en fait, on a été très présents sur le quartier. On travaille de manière étroite avec la maison de quartier de Vigan, le centre social. On a fait beaucoup d'événements sur l'espace public et donc on a pu se faire repérer par les habitants qui ont développé une confiance avec nous et qui nous ont suivis dès le démarrage dans les locaux ici à l'université Rennes 2. Donc aujourd'hui, on a vraiment aussi bien des habitants qui sont déjà investis dans d'autres structures de quartier et qui apprécient de venir ici pour le lien avec la jeunesse, le fait que ça soit un espace où tout est possible. Et on a aussi de nouveaux habitants qui rentrent souvent par le groupe d'entraide.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de projet qui a été lancé, qui a pris vie ici et que vous trouvez chouette ?
Un projet qui a été lancé ici, c'est le projet de la tablée féministe. Donc en fait, Domitié, elle est en service civique à Unicité. Et c'est un service civique spécifique qu'elle faisait qui s'appelle Rêve et Réalise. Unicité a fait le lien très vite et lui a proposé de venir en immersion dans notre structure. Donc nous, on l'a accompagnée vraiment à déployer son projet, à faire du lien avec le quartier. Et ça a mené à deux actions qui se sont déroulées l'année dernière, en 2022. Une à peu près à la même période que là, qui était vraiment une grande tablée sur l'espace public avec des verbatim d'hommes et de femmes sur la place des femmes dans l'espace public. Ce sont des phrases un peu choc et qui invitaient les personnes à venir échanger de ce qu'elles pensaient de ces verbatim. Donc ça a créé énormément de matière en fait. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on exploite cette matière, comment on la rend accessible, comment on la transmet et surtout comment on capitalise sur le processus qu'elle a réussi à mettre en place pour fédérer autour de cette action. Et donc ce travail aujourd'hui se poursuit. Donc il y a un groupe de travail avec des bénévoles, des salariés de SS Cargo qui réfléchit à ça. Power to the women of the morning
shift. Power to the women of the morning shift. Madame, nous sommes au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre candidature pour notre offre d'emploi concernant le poste de formatrice à la Chambre des métiers d'art, médiatrice culturelle, poste d'assistante bibliothécaire, de conseillère de vente en objets décoration, prêt-à-porter, bijouterie, bagagerie, en téléconseillère en assurance, opératrice de relevé de compteur, etc. Pas assez d'expérience en dehors de votre parcours professionnel initial, niveau d'études trop élevé, pas assez de disponibilité horaire, j'ai un fils de 10 ans en garde alternée, trop âgé, etc. Je suis Géraldine, 48 ans, porteuse de projet et au RSA depuis plus d'un an.
Donc en fait, aujourd'hui, on est dans le cadre d'une semaine dédiée à l'entrepreneuriat des femmes. L'idée, c'est de proposer des ateliers qui soient ouverts aux femmes qui entreprennent avec un sens très large du mot entreprendre. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien un projet très personnel, une action sur l'espace public, dans le cadre de la vie citoyenne, qu'un projet d'entrepreneuriat visant à créer une société, par exemple. Et c'est une semaine qui vise vraiment à lutter contre les inégalités face à l'entrepreneuriat. Et notamment, on sait que les femmes ont davantage de freins à entreprendre qui sont liés au système patriarcal.
Ce sont 13 participantes qui sont venues. Qui sont-elles et quels étaient leurs besoins d'accompagnement ?
En fait, nous, on a vraiment axé la communication sur le quartier. Après, on a beaucoup de partenaires de l'entrepreneuriat qui se sont aussi fait le relais de cette action. Et donc, on a des personnes qui viennent d'un peu plus loin. Ce sont des femmes qui ont envie d'échanger sur leur projet, qui partagent nos valeurs, c'est-à-dire l'entraide, la coopération, le faire ensemble, l'équivalence aussi. Se dire que, en fait, on est toutes légitimes à être là, à échanger et à avancer ensemble sur nos projets. Et il y a Géraldine qui souhaiterait créer une structure qui fédère des femmes qui sont éloignées de l'emploi et qui leur permette de se mettre dans une logique de réinsertion à travers la revalorisation textile et ou mobilière. Il y a Manon, Gwendoline et Amélie qui portent un projet de développer un podcast qui aborde la question des relations de couple hétéro dans un système patriarcal.
Comment est organisée la semaine jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, lundi, c'était plutôt des ateliers qui étaient dédiés à déjà faire connaissance, créer un cadre de confiance et commencer à réfléchir à son projet et comment le présenter en travaillant à travers l'art, la création. Donc, il y avait tout un atelier de collage, écriture, découpage, dessin. Donc, ça a permis la création de mood board. Dans ce cadre-là, les contributrices ont, elles, pu s'exprimer sur ce qu'elles pensent de l'entrepreneuriat des femmes.
Les contributrices qui sont bénévoles, elles étaient combien ?
Elles étaient 4.
On arrive là, ce vendredi, au moment de la restitution. Comment ont avancé les projets dans la semaine ?
Donc les projets ont avancé dans la semaine à travers beaucoup d'entraide. Il y a eu beaucoup de moments pour réfléchir sur les différents aspects, type quels sont mes enjeux, quelles sont les opportunités aujourd'hui.
Les financements.
Les financements, c'est une question qui ressort énormément. Et en fait, il y a eu énormément de temps de mise en commun qui ont permis de s'échanger des ressources, des contacts, des idées. Et aussi permettre de se poser des questions qu'on ne serait pas posées par ailleurs. Et ça aussi est beaucoup tourné autour de la confiance en soi. On a fait un atelier qui visait à vraiment visualiser son projet de manière positive pour ensuite se dire « Ok, comment je vais y arriver ?» en passant bien évidemment par des obstacles, mais vraiment de se projeter positivement. Là, on a fait une superbe semaine ensemble. On a décidé collectivement de continuer à se voir, qu'il y aurait des entretiens individuels à la suite de cette semaine, de créer un WhatsApp pour continuer à échanger, de se créer un drive partagé pour s'échanger des ressources, des documents, etc. Coraline qui veut monter un écolieu avec l'idée de valoriser la place notamment des enfants dans la société. Maïwenn, Béatrice, Ghislaine qui sont contributrices.
Alors moi c'est Coraline, j'ai 23 ans et je suis porteuse d'un projet d'écolieu pour accueillir les personnes dans le tourment, les personnes curieuses, mais surtout pour les enfants et les jeunes qui se sentent seuls et perdus dans la société. Le but, ce serait de créer un lieu alternatif et autosuffisant où ils puissent rencontrer un autre univers, pouvoir partager du temps et des activités avec des artisans, des artistes, avoir un espace de soins pour pouvoir parler des maux et des conflits intérieurs et guérir leurs souffrances, ou au moins les aider à cheminer vers un mieux-être.
C'était quoi votre parcours avant ce projet ?
Je sors de 3 ans du monde du bâtiment, où je travaillais en tant que chauffagiste. Parallèlement, depuis 2 ans, je me suis orientée vers une voie un petit peu plus alternative. Mon regard sur la société a beaucoup changé, je me suis rendu compte de beaucoup de choses notamment de la souffrance que je voyais autour de moi et que j'avais en moi par rapport à ce sentiment d'exclusion où je ne me ressentais pas forcément alignée à la société, à la surconsommation. Et je me sentais un peu perdue dans où est-ce que je voulais aller. Et donc je me suis tournée petit à petit vers la médecine alternative.
Là, vous arrivez sur cette semaine d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin qui se déroule à l'ESS Cargo et compagnie. Vous en avez entendu parler comment de ce lieu-là ?
Alors celui-là, j'ai entendu parler par la mission locale de Rennes, par la conseillère qui s'occupe de la gestion des entreprises qui m'a fait suivre la présentation de l'atelier.
Là, en fin de semaine, est-ce que votre projet a bougé ? Ça a servi à quoi finalement ?
Alors ce temps, ça m'a permis de mettre au clair mes idées et d'être capable de le présenter devant vous au micro d'ailleurs, de manière assez claire. Ça, c'était pas dit tout ça lundi en début de journée. Et du coup, de permettre de voir les grandes étapes à franchir. La première, ça va être de créer mon cabinet de soins. Et puis après, ça va être de m'orienter un petit peu plus vers les enfants. Donc peut-être me former ou peut-être même aller travailler à temps partiel dans des espaces plus dédiés aux enfants. J'aimerais aussi après faire un tour d'écolieu. Et puis après, bah, c'est de trouver un lieu qui soit adéquat à mon projet ou de créer un lieu.
Donc c'est le début d'un long chemin.
Un long chemin, oui. Voilà.
Moi, je suis une bénévole du centre social Carianne sur la dalle Kennedy. Ça fait 17 ans que je suis bénévole. Et j'ai intégré l'ESS Cargo parce que c'est un tiers lieu avec des méthodes innovantes. Il n'y a pas de distance entre les jeunes et les habitants du quartier. Il y a un lien qui se fait rapidement.
Être contributrice, ça consiste en quoi ?
Ça consiste à les avoir accompagnés sur cette semaine et se rendre compte que j'avais des choses à leur apporter. Et c'est satisfaisant. Leur apporter plutôt des pistes, en fait, et des informations sur les réseaux qu'elles peuvent contacter pour avancer.
Il y a des projets qui vous ont marqué ?
Le projet d'April, qui s'oriente vers la bijouterie artisanale.
Vous êtes une habitante donc du quartier Villejean ?
Alors, j'ai habité sur Villejean pendant 11 ans. Maintenant, j'habite au Blône, au Landrel. Mais tous les matins, je prends le métro pour venir au centre social de Villejean. Je ne peux pas quitter mes...
ce quartier-là.
Ce quartier-là, c'est...
Vous y êtes attaché.
Complètement.
Puisque l'idée, c'est bien aussi de récupérer des vêtements ou des textiles de seconde main, de créer des interventions de valorisation en termes de couture ou d'ennoblissement textile, de réinjecter ces créations dans un circuit de vente afin d'en tirer des bénéfices destinés aux femmes éloignées de l'emploi. Il y a des petits moments de fou, mais... C'est trop bien, hein. Ah bon, bah merci.
Thank you.
Dirty Projectors, No Intentions, c'est un morceau extrait de l'album Beat Orca qui est sorti en 2009 sur le label Domino Records et c'est l'un des 8 disques de ce groupe de rock américain mené par Dave Longstreth. Il a été fondé au début des années 2000. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui va bientôt se terminer, mais avant ça, la recommandation du jour. Et en fait, c'est pas une, mais deux recommandations de choses à faire ce week-end là, que je vous donne. D'abord, on annonce la 45e édition de la Galésie. En fait, c'est samedi 24 et dimanche 25 juin à Monterfil. On a une trentaine de minutes à l'ouest de Rennes. Rendez-vous sur le site de la Bétanger pour 2 jours de musique, de danse, de contes, mais aussi de jeux et de sports traditionnels. Le tout dans un esprit 100% gallo. Et c'est organisé par l'association au carrefour de la Galésie. Festnoz le samedi soir, Fest Dej le dimanche matin et Festdays à partir de 13h30 jusqu'au Festnoz du dimanche soir, ça va danser. Plusieurs concours sont aussi organisés, concours de danse mais aussi de cidre et de jus de pomme avec la possibilité, tiens on parle de boissons, de tester la fameuse godinette et la drôlette, deux boissons alcoolisées ou non choisies qui en tout cas ont été créées à Monterfil. Les tarifs pour le repas cochon grillé qui sera organisé le dimanche midi, eh bien ces tarifs vont de 12 à 16 euros. Pour retrouver tout le programme de ce week-end où la Galésie sera en fait, ça c'est sûr, il y a le site internet galésie-monterfil.bzh. Deuxième conseil pour le week-end, c'est la 5e édition du marché Pas Pareil. Rappelez-vous, cet événement, il avait été lancé fin 2020 pour mettre en lumière le secteur de l'économie sociale et solidaire en pleine crise sanitaire. Dans ma valise, pour un été local, responsable et engagé, c'est le thème de la prochaine édition organisée par Réseau Solidaire, le pôle de développement de l'ESS en Pays de Rennes, en partenariat avec la Basse-Cour. Basse-Cour qui accueillera à Rennes donc le marché Pas Pareil, dimanche 25 juin de midi à 20h. L'occasion de glisser dans sa valise, par exemple, un bouquin de la librairie coopérative L'Établi des mots, ou bien un savon made in Rennes, sans oublier de préparer son prochain bivouac avec la ressourcerie sportive L'Équipière. En plus des 20 exposants, le public pourra aussi participer à 4 ateliers do-it-yourself et des DJ sets et de la restauration en food truck font aussi partie du programme. L'entrée se fait à prix libre. Pour plus d'infos, il y a le site lemarchépapareil.fr. Je vous laisse avec un extrait de l'interview en compagnie de la savonnerie des Coquelicots que vous pourrez retrouver dimanche et qui était passée en studio il y a un an tout pile pour parler de ce même événement.
Donc la Savonnerie des Coquelicots est dans le quartier de la Binquenet, donc entre Sainte-Thérèse et Italie. J'y suis installée depuis 2020, donc j'ai commencé le premier marché Pas Pareil, en fait c'était le début de mon activité, donc c'était un
bon coup de pouce.
Ouais, exactement, parce que tous les marchés de Noël fermaient, hein, donc c'était un peu stressant, et Réseau Solidaire a une bonne idée.
Comment est-ce que vous avez vous êtes débarqué comme ça dans ce milieu du savon?
Moi j'ai une expérience de 20 ans j'étais chargée de mission développement durable dans plusieurs structures et puis éducatrice à l'environnement, et puis après 20 ans à dire aux autres comment faire pour les accompagner au changement, j'ai voulu faire de mes mains. Donc voilà, je propose des savons à base d'huile végétale biologique, je les colore uniquement avec des argiles du sud de la France, et puis pour certains ils sont parfumés avec des huiles essentielles pour leur senteur et puis leur propriété.
Comment on se forme à une telle activité ?
Alors, en tant que chargée de mission zéro déchet dans une structure, ça faisait une dizaine, quinzaine d'années que je faisais mes propres produits. Donc, j'ai un peu appris toute seule. Et puis, pour être savonnière, j'ai aussi fait une formation avec un maître savonnier. Voilà, donc pour fabriquer un savon, on a besoin en fait de matières grasses, donc de l'huile végétale, et puis d'une base. Donc, on utilise de la soude caustique. Et donc, dans ce mélange, il y a une réaction chimique qui se fait, donc il y a de la glycérine qui se forme, la soude disparaît complètement, donc on mélange ces deux produits, et puis ensuite on coule ce mélange dans un moule, on laisse reposer 24 à 48 heures, Ensuite, on démoule, on découpe et puis on laisse sécher les savons minimum un mois.
Avant de pouvoir les utiliser.
Exactement. Et avant de pouvoir les utiliser, on va refaire des tests. Voilà, on va prendre le pH du savon, vérifier tous les critères organoleptiques. Et puis, on va retailler les angles, tamponner et puis soit les proposer en vrac ou soit en étui, en carton pour ma part. Voilà, je propose les deux avec un tarif plutôt incitatif pour le vrac parce que l'idée, c'est aussi de réduire les déchets, prendre soin de la planète tout en prenant soin de sa peau.
L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B. Voilà.